Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans un atelier du violon baroque. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Cette semaine, c'est de nouveau vous qui avez les clés de l'atelier. Il y a quelques jours, vous nous présentiez des luthiers de luth, des constructeurs de luth. On allait au plus profond de cet art très secret, très confidentiel. Et vous revenez, David, pour nous reparler de luthier, pour repousser la porte d'un atelier.
Voilà, un atelier de violonnerie, on pourrait dire, si on prend un terme qu'on n'utilise pas, puisque c'est bien des luthiers qui fabriquent les violons et qu'on va rencontrer toute cette semaine.
Oui.
À l'occasion du 4e atelier de musique ancienne de Gruyère. Mmh. Ça se passe dans la très belle ville ou petit village de Gruyère, perché sur cette colline que vous connaissez peut-être. C'est un endroit très visité par les touristes du monde entier, pratiquement, avec un château ancien qui date du temps du Moyen-Âge.
Oui.
Et c'est dans une des salles de ce château qu'a lieu depuis 3 ans maintenant cet atelier où on construit un instrument et on fait un festival de musique ancienne autour de la construction, autour d'un atelier de lutherie.
À l'ancienne donc, pour joindre le geste à la théorie, il y a l'électricité quand même.
Il y a l'électricité, il y a aussi des outils modernes. Mmh. Il y a un maître luthier qui a des stagiaires, donc c'est un cours ouvert au public et ceux qui sont intéressés s'inscrivent. Ce sont ou bien des gens qui ont déjà travaillé le bois ou bien des musiciens qui aimeraient mettre la main à la pâte. Et il y a 4 stagiaires pour l'atelier qui a eu lieu à la fin du mois d'août cette année, jusqu'au début septembre, et nous allons les rencontrer tout au long de ces émissions, ainsi que les invités, les musiciens qui ont participé à ce festival. Espace 2 a posé des micros dans plusieurs des concerts.
Oui.
Et c'est quelques-uns de la crème de la musique baroque et du violon baroque. Manfredo Kremer, Abandine Beyer y était, Claudia Hoffmann a donné un cours de maître, donc tout ça au menu de cette semaine autour de l'atelier de violon baroque de Gruyère.
Vous étiez nos yeux et surtout nos oreilles pour Musique en mémoire. Alors nous savons tout, vous qui écoutez Musique en mémoire et moi-même, nous savons tout du luth. Bienvenue dans le monde de la violonnerie et donc de cette lutherie de violon, puisque le violon fait partie de la famille des luths.
Voilà, si l'on prend les traités d'organologie, donc de classification d'instruments qui ressemblent parfois à la classification des naturalistes, des botanistes et des zoologues, mmh. Eh bien le violon est un luth frotté, si l'on veut, donc un instrument de cette famille, qui est une famille de cordes avec une caisse de résonance.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que le maître d'œuvre de cet atelier de Gruyère, Philippe Motterio, qui est notre guide toute cette semaine, lui est un luthier de luth, est un guitariste et luthiste qui s'est mis à la fabrication des instruments. Mmh. Et il nous présente cet atelier pour commencer, pour ouvrir la série.
Alors c'est vous qui avez les clés, David Mestri, on le disait d'emblée, nous vous suivons.
Disons, mon ambition de départ, c'était de présenter 4 concerts avec de la musique différente, des nations musicales différentes.
Mais le violon que vous construisez, qui est donc un modèle de Brescia, de Maggini, oui. Il peut jouer toutes ces musiques.
Ah oui, oui, ça se pratique comme ça. Les violonistes ont un violon, par exemple de Steiner, qui est un beau violon baroque avec des voûtes assez élevées, qui a un son un peu flûté. C'est un genre de violon particulier qui va très très bien pour la musique autrichienne par exemple, mais on peut jouer absolument tout.
Parce qu'il y a des violons qui étaient dans différentes écoles plus puissants, plus sonores que d'autres.
Il y a des styles différents de sonorité, oui. Le violon du nord de l'Italie, de Venise et du sud de l'Allemagne, disons, surtout les violons de Steiner, ont des voûtes plus marquées et un son qui est un petit peu moins grave et riche que le modèle plus plat de Stradivarius de l'école de Crémone. Donc c'est des violons, on dit, plus flûtés, un peu plus perçants. Voilà. Et puis c'est un genre de violon qui peut être adapté à la musique de cette région aussi, du sud de l'Allemagne, mais je crois qu'on peut généraliser tout. Mais je crois qu'à peu près personne aujourd'hui joue les violons de l'école de Brescia avec ses doubles filets et puis ses C qui sont très peu marqués. Mm-hmm. C'est un style un peu rustique comme ça qui ne plaît pas beaucoup.
En tout cas, le nom de Maggini n'est pas très connu si on compare avec d'autres des écoles de Venise.
Oui. C'est une des toutes premières écoles de violon. Donc c'est une des villes où on a construit les violons le plus tôt. Et puis il y a 2 familles qui sont restées fidèles à leur manière de faire un petit peu archaïque. Ouais. Mmh.
Oula, des portes qui claquent dans cette émission Musique en mémoire, c'est la porte de quoi ça,
c'est une belle porte sonore, celle de la salle de garde du château de Gruyère. On passe de la cuisine à l'atelier où on était déjà avec Philippe Moterio et autour de ce violon de Maggini donc, qui sera fabriqué cette semaine. Une première participante au stage que voici, c'est une violoniste professeure au conservatoire de Fribourg qui a voulu participer à la construction d'un instrument.
Je n'arrive pas à concevoir un autre métier, une autre profession où l'on puisse dire que la méthode archaïque est celle vers laquelle on doit retendre et retourner. C'est donc cette première participante qui va nous enseigner à réaliser ce genre de paradoxe. Le nom de cette première intervenante, David Mestri ?
Anne-Catherine Gigi.
On la rejoint.
Vous participez au stage alors ? Comme luthière ?
Active, ouais. Oui.
Alors vous avez un très beau morceau d'érable ondée, c'est ça dans la main, hein. Ça va devenir le manche d'un violon.
Ça devient le manche du violon, ouais.
Pour l'instant c'est un parallélépipède, un gros bout de bois.
Que ça soit vraiment en équerre ici, et horizontal et lisse, et c'est très difficile.
Et vous rabotez, alors qu'est-ce que vous avez comme outil?
On a ça.
Ah oui, un petit équerre
et
métallique.
Et puis on voit de la lumière là, à gauche, donc ça veut dire qu'à gauche c'est plus creusé qu'à droite. Donc il faut que je rabote un petit peu à droite.
Vous devez viser avec votre équerre sur le morceau de bois en direction, cette belle direction de la vallée, là par la fenêtre de cette salle du château de Gruyère.
On voit qu'en bas, là, par exemple, je dois enlever plus de bois. Il faut que j'enlève plus. Alors il faut que je me souvienne que c'est ce côté-là. Après, je vais le poser comme ça.
Vous qui êtes violoniste, le manche d'un violon baroque est très différent du manche d'un violon habituel, traditionnel, moderne que vous utilisez.
Alors en fait, le dessus du manche, pas tellement, mais le dessous, il y a plus de bois.
C'est plus gros, un manche
plus
baroque.
C'est plus épais, ouais. Donc on peut mieux le tenir dans la main, puisqu'on n'a pas le coussin puis pas la mentonnière. Hein. Mm-hmm. Donc il faut quand même tenir l'instrument quelque part.
Alors, cet atelier vont participer des musiciens comme vous, des jeunes là, qui savent déjà travailler le bois. Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez nous présenter, Pierre-Louis, un peu les personnes qui vont participer à ce stage pendant toute cette semaine ici à Gruyère.
Bon, il y a trois jeunes là, qui ont une quinzaine d'années. Il y en a un qui a déjà fait l'année passée le stage.
Qui avait construit, donc l'année passée, c'est des instruments médiévaux, hein,
ouais,
un luth,
ouais,
et une guitare.
Ouais.
Et
puis cette année, il est revenu pour faire le violon baroque. Et je crois que lui, il serait intéressé par le métier plus tard aussi. Mmh. Et sinon, les deux jeunes, je n'ai pas fait trop leur connaissance. Et puis il y a Anne-Catherine, elle est violoniste. Et puis elle voulait. C'était l'occasion une fois de voir comment se passe la construction d'un violon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens, des violonistes qui jouent pendant je ne sais pas combien d'années leur instrument, ils n'ont pas vraiment une idée de la fabrication. Quoi. C'est intéressant aussi.
Très bien, donc les participants à un stage comme ça, c'est plutôt des passionnés de musique que des passionnés du bois? Ou bien quelle est la meilleure qualité d'un futur luthier? C'est la qualité manuelle ou c'est la passion musicale?
Moi je pense qu'il faut un peu les deux quand même, ouais, c'est... Mon cas, c'était ça en tout cas.
Vous avez quoi comme formation avant d'être luthier, vous aviez...
Moi j'ai fait l'école de lutherie à Brienz, c'est la seule école en Suisse. Donc je l'ai commencé, j'avais 15 ans. Donc j'avais pas de formation avant, mais je jouais du violoncelle déjà depuis enfant. Quoi.
Et alors, en une semaine ici, c'est un peu la gageure de ce stage, c'est de faire un violon plus ou moins de A jusqu'à Z. Je vois là un des stagiaires, des jeunes, qui est en train de creuser quelle partie du violon?
Alors ça, c'est le fond, qui est en érable. C'est vrai que c'est un bois très dur, là, il souffre un peu.
Il y a une sorte de cuillère coupante là, avec laquelle il enlève des gros copeaux.
Ouais. Attends voir d'ailleurs, parce que... Ce bois-là, on en aura besoin. Donc, je ferai pas le...
Ah ouais.
On donne un arrondi donc ici à ce fond. Hein. Ça, c'est l'intérieur ou ce sera l'intérieur?
Ça, c'est l'extérieur.
L'extérieur.
C'est donc la voûte extérieure du violon.
Elle a déjà toute la forme du violon, ça c'est. Ouais. Donc, ça a été pré-scié avant de venir ici?
Non, ils l'ont scié ce matin.
À partir de quoi? À partir d'un moule? Comment ça se fait?
D'après... Moi, j'ai des chablons donc, qui sont par rapport à la forme. Là, c'est d'après un modèle Maggini qu'on fait. Et avec le chablon, il y a un moule pour les éclisses qui correspond exactement au chablon.
C'est ce qu'on voit sur la table derrière, là-bas?
Là, c'est un violon que je suis en train de faire, moi. Donc, ouais. Mais il y a, le moule qui est à l'intérieur encore, là, ouais, avec les éclisses. Donc ça, ça doit jouer ensemble. Et puis, donc maintenant, il va faire déjà la voûte et que le bord soit moins épais pour pouvoir faire déjà après le contour de l'instrument précis, qui est déjà définitif. Mmh.
Ouais. Vous avez dit un chablon d'après un modèle Maggini. Qui était Maggini? Ce n'est pas un des grands facteurs qu'on connaît, luthiers qu'on connaît.
C'était en fait un luthier qui était avant Stradivarius. Ce violon-là, il l'a fait en 1620. Là, tu vas chauffer les serre-joints comme ça. Donc, c'est, en fait, c'est plus vieux que Stradivarius parce que Stradivarius, on dit, c'est lui qui a vraiment standardisé le violon qu'on connaît aujourd'hui. Et avant, donc son maître, c'était Amati. Lui, il a dit, ça se rapprochait. Et puis Maggini, c'est encore plus vieux, quoi. Il y avait Gasparo da Salo, Maggini.
Donc ça, c'est vraiment le modèle que vous allez imiter, celui qui est sur cette affiche-là.
Donc, on ne va pas faire une copie précise de l'instrument, voilà, parce qu'il y a ceux qui font vraiment les copies où ils font aussi les détails de
décoration,
d'usure et tout ça. Et là, il y a un double filet qu'on ne va pas faire, ça non plus.
C'est la décoration sur l'extérieur du violon qui est là pour la beauté. D'accord. Mais je vois que cet instrument-là, par exemple, est monté à moderne, hein, puisqu'il a une touche avec un cordier moderne.
Bah, à l'époque, il devait être baroque. Il a été transformé, celui-là. Le manche n'est pas d'origine. Donc, c'est clair que nous, on va le refaire avec le manche comme il était d'origine. Donc, précisément, on ne le sait pas, parce qu'il y a très peu de restes par rapport à ce qui se faisait exactement. Et puis, c'était aussi chaque luthier, par rapport à la période baroque, il faisait ses essais. Il n'y a pas vraiment une forme de violon standard, justement, qui, on pourrait dire, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, là, après, c'est aussi un peu avec les musiciens qu'il faut discuter, puis voir si ce qu'ils préfèrent, quoi.
Les instruments que vous allez fabriquer, il y en a deux, hein, cette semaine, qui vont être faits. Ils seront destinés à des musiciens en particulier?
On va essayer déjà d'en finir un, en tout cas. Et puis, ce sera pour le conservatoire de Fribourg.
Mise à disposition des élèves qui s'intéressent à la musique baroque. Mais par exemple, le tracé de ce violon qui ressemble, évidemment, pour un béotien comme moi, qui ressemble à un violon normal, vous aviez dit que Stradivarius a fixé un standard définitif. Est-ce qu'il y a, quelle serait la différence entre la forme? C'est peut-être un petit peu plus étroit, c'est ça?
Alors, là, il y a une... Bon, par rapport à Stradivarius, par exemple, les ouvertures d'essai, là, le Stradivarius a fait des essais beaucoup plus fermés.
Voilà, donc là, le côté du violon.
Ouais, il a une forme un peu plus archaïque que le violon de Stradivarius. Ouais. Ça fait un peu plus primitif, comme aussi les ouïes, la taille des ouïes, le fait que
la petite boule du F, hein, qui sont ces ouïes particulières du violon. Et vous, Pierre-Louis, vous faites beaucoup d'instruments baroques ou à la baroque dans votre production?
Alors, bon, je fais un peu de tout, c'est clair, quoi. Mais j'ai fait quelques instruments baroques. Mais j'ai fait plus d'instruments baroques, disons, avec justement pour les musiciens qui voulaient des mesures normales. Donc avec un manche plus long, mais avec quand même monté en boyau. Mais baroque, j'ai fait plutôt des transformations. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui veulent refaire des violons à la baroque.
Voilà, ou redonner à un violon son état primitif. Et on va vous suivre tout au long de cette semaine pour voir un peu l'avancement de ces travaux-là. Il y a de la colle qui chauffe aussi derrière nous sur cette deuxième table.
C'est une colle à base d'os qu'il faut chauffer. En fait, c'est la colle qui est employée depuis 300 ans plus par les luthiers. Et c'est la colle que les menuisiers employaient aussi à l'époque, avant les colles synthétiques.
Et c'est de la cuisine pratiquement. On fait quoi? Bouillir, hein? Il y a un véritable os à l'intérieur.
Elle est simplement cuite au bain-marie. Ouais. Et ça la rend. Et sitôt qu'elle froidit, elle devient comme une gélatine et puis elle durcit après. Ouais. Pour la mettre, il faut que ça soit chaud. Et puis pour faire un bon collage, il faut chauffer le bois aussi, comme ça rentre bien dans le bois.
Ça sera pour les derniers jours, j'imagine, le collage?
Non, aujourd'hui, on va déjà coller le joint de la table, qui est le collage le plus important pratiquement de l'instrument. C'est que...
C'est les deux planches de la table?
Oui.
Parce que c'est en deux morceaux.
Voilà,
hein,
c'est en deux morceaux. Et puis c'est clair qu'après, une fois qu'elles seront travaillées, il restera à peu près 2,5 mm, 3 mm d'épais. Et ce joint, il doit tenir toutes les forces qu'on va donner.
Il doit tenir le rabotage, ça sera encore raboté après collage.
Oui.
Très bien. Ça, ce sont des languettes alors que vous...
Des filets. Des filets, ce sera les éclisses ?
Non, c'est en fait des petites pièces de bois très fines qu'on met tout au bord pour faire joli. C'est les petites lignes noires en fait qu'il y a sur les bords du violon.
D'accord, pour la décoration.
Qui sont ça, voilà, ouais. Alors là, vu qu'il y a une noire, une blanche et une noire, on est en train de faire la blanche. Puis il y en a encore,
et ça recette cette épaisseur-là ?
Non, je crois pas. Ça doit être moins épais, enfin moins large. Puis l'épaisseur, ça sera 60 mm, je crois, d'épais, donc c'est fin. Puis c'est ce qu'on est en train de faire, quoi.
Et là, le rabot, alors, c'est le rabot qui est fixe, et c'est vous qui passez la
languette en fait, à l'intérieur. La lame qui est fixe.
Une ambiance, celle du château de Gruyère lors de cet atelier de musique ancienne, des apprentis. David Mestri, vous y étiez. Voici un deuxième maître luthier.
Philippe Moterio.
Vous avez un moule de violon dans les mains, visiblement,
c'est
avec des vis.
C'est le moule du Maggini, donc le violon qu'on fait cette année.
C'est un moule qui est fait chaque fois. On doit construire le moule avant de faire un violon.
Bon, pour faire un modèle différent, le moule qui est juste à côté, c'est un moule pour un modèle de Stradivarius. Et ça, c'est un Maggini qui est assez différent dans la forme des C. Effectivement, il faut chaque fois faire un autre moule. Bon, ce n'est pas un travail phénoménal non plus, hein, c'est assez petit.
Le moule sera destiné à pouvoir former les éclisses, c'est ça en fait.
Voilà, on le voit bien sur l'autre.
Voilà, les éclisses qui sont les bords du violon.
Là. Là, on va juste coller les coins avec Samuel, qui sont les 6 petites pièces de sapin qu'on enclave dans le moule et qui vont après servir de base à la structure du violon, à l'extérieur, les éclisses qui forment le contour. Voilà. Alors là, il y a un moule où elles sont déjà en place, à leur bonne épaisseur, la bonne largeur. Et puis, on le fait pour que l'instrument soit fidèle au modèle. Avec un moule assez précis, comme on voit, il n'y a aucun jeu par rapport au moule, c'est parfait.
La forme de ce moule et du violon a une importance grande dans la sonorité. Après, vous disiez que ce sera un modèle antérieur à Stradivarius pour sa forme, mais ça a de l'importance, ça a beaucoup dans la sonorité.
Oui, là, ce violon qu'on fait cette année d'après l'école de Brescia, donc le modèle de Maggini, a une forme assez différente par rapport au Stradivarius. Les C sont beaucoup moins marqués, les courbes sont moins tendues.
Il a l'air un peu plus svelte, hein, c'est ça ?
Voilà, le modèle de Stradivarius plus moderne a l'air plus beau selon nos critères, alors que l'autre plus ancien de l'école de Brescia a un côté un peu pâteau, un peu archaïque, mais qui a beaucoup de charme. Oui.
On est dans les cuisines du château, ça tombe bien. On voit le luthier en chef qui arrive avec une casserole, Pierre-Louis.
Alors,
c'est de l'eau qu'on mettait à chauffer là.
Oui, ça c'est pour.
C'est pour encore mettre la colle au bain-marie pour qu'elle soit bien.
Oui, ce sera.
Mais la colle, vous l'avez faite vous-même ou bien c'est.
Non.
Ça simplement réchauffé.
Ouais. Bon, nous on l'achète, c'est sec. Puis après, il faut la mouiller, il faut la mettre dans l'eau. Ça, elle gonfle. Et puis après, on peut la chauffer. Puis on peut l'utiliser. Autant de fois qu'on veut, quoi. On la rechauffe.
Et puis, il me semble que l'année passée, pour la lutherie médiévale, ils avaient utilisé aussi la colle de peau, de peau d'oreille de lapin. Bien, ça s'utilise aussi en lutherie de violon, ça ?
Oui, oui. Bon, il y a la colle d'os, il y a la colle de nerf, il y a la colle de peau, il y a plusieurs. Puis après, on peut faire des mélanges. Puis elles sont toutes plus ou moins souples. Plus,
ça dépend. Elles sont destinées à des usages différents ?
Oui. Puis là, c'est un mélange, par exemple. Là, il y en a deux. Et... C'est moitié nerf, moitié peau.
Donc c'est pas de l'os, c'est pas de la colle d'os, celle-là.
Non, pas celle-là. Non. Mais c'est un peu, il y a la colle d'os, c'est aussi le même style qu'on peut employer.
Parce qu'il y a des collages très différents, j'imagine, dans un violon. Il y a le collage de la table qui est une grande surface et qui doit être très solide. Il y a le collage des éclisses où on a juste une petite surface qui est en contact.
Oui, donc disons la table, c'est pas, à la fin ce sera une toute petite surface aussi. Donc, mais ce qu'on peut faire aussi...
Le manche, alors...
Oui, ça c'est bien que ça tienne. Là, on peut aussi jouer sur le, en mettant plus ou moins d'eau, de l'avoir plus liquide, donc ça tiendra moins bien. Ouais.
Mm-hmm. Et puis c'est une colle qui, si je me souviens bien, ce qu'on m'avait expliqué l'année passée, peut se décoller aussi facilement en la chauffant. Ça permet justement de redémonter plus facilement un instrument.
Oui, c'est pour ça que, disons, c'est vraiment l'avantage de cette colle, c'est que quand il y a des réparations à faire, soit en chauffant, soit en mouillant un peu, on arrive à elle devient molle de nouveau. Et puis on peut facilement décoller, nettoyer toute l'ancienne colle et puis recommencer avec de la colle neuve, quoi.
Il y a encore des mystères, Pierre-Louis, quand on imagine un atelier d'un luthier du XVIIe ou du XVIIIe siècle, parce qu'ici on a tout de même une plaque électrique. Bon, c'est vrai que le travail est fait à petite échelle, hein, c'est sur une semaine tout un instrument qui est plus ou moins monté. On se pose encore des questions, comment les gens faisaient avec des outils certainement plus rudimentaires aussi que tout ce qu'on a aujourd'hui pour travailler le bois.
Ben non, parce qu'en fait les outils, on emploie les mêmes pratiquement.
Les rabots existaient sur la même forme.
Ouais, ils ont les mêmes petits rabots là, Stradivarius, ils existent encore, ils sont dans son musée. Bon, il y a le papier de verre qui n'existait pas, mais le papier de verre on l'emploie finalement très peu parce qu'on travaille beaucoup au racloir et puis ça ils le faisaient aussi.
Avant on lissait seulement avec le racloir.
Ouais. Et nous aussi d'ailleurs avec toutes les voûtes, on n'emploie pas le papier de verre. Non, on reste un peu avec les mêmes outils, effectivement.
Il y a des matériaux que vous vous interdisez d'utiliser quand vous faites de la lutherie ancienne par rapport à des instruments modernes ?
Non, je crois pas, parce que dans l'instrument moderne, bon, à part les cordes qui ont du métal, mais le reste, ça reste vraiment très, très, très... On est resté dans les mêmes traditions de construction.
Et vous avez des recherches de sonorités très différentes quand vous fabriquez un violon baroque par rapport à un violon moderne. Les attentes sont très différentes. Ça doit quand même sonner bien. C'est moins important d'être puissant. Quelle est la grande différence?
Alors, c'est sûr que la grande différence, c'est la puissance. Mais après, la qualité du son, je pense que c'est clair qu'avec un violon baroque, on arrive à des sonorités de qualité tout à fait, même supérieure à la qualité du son, en fait, du violon moderne, qui doit être avant tout puissant. Mais des fois, on sent qu'un peu moins de tension sur les instruments, ça les rend aussi beaucoup plus ouverts. Ça peut être... C'est plutôt bénéfique par rapport à la qualité sonore. Ouais.
Est-ce qu'il y a un bout utilisable là?
Ouais. Alors, il faut couper tout ce qui est cassé.
Ce sont des petites lames de bois, là, teintes?
Non, ça c'est de l'ébène.
C'est l'ébène.
C'est l'ébène qui a sa couleur naturelle.
Ce sera aussi pour la décoration, donc pour ces petits filets sur le violon.
Ouais. Ça donne...
C'est très fragile comme on le voit, hein, même si l'ébène est un bois.
Et surtout quand... On doit travailler là avec une lame qui fait 35 centièmes d'épaisseur. Donc ça devient très fin et puis c'est clair que l'ébène, c'est un bois qui est très cassant en fait.
C'est des outils que vous avez déjà utilisés, ceux que vous utilisez là pour creuser le fond de violon?
Non, je pense pas. Moi j'en ai utilisé quelques fois vu que mon père est luthier, donc forcément. Je sais pas, vous demandez.
C'est des outils traditionnels pour travailler le bois?
Je pense en tout cas.
C'est une sorte de cuillère là avec le point, une lame très aiguë qui permet donc de creuser les copeaux de ce fond de violon.
Exactement, ça s'appelle une gouge.
Gouge. Donc là, ce fond fait encore presque 3 cm d'épaisseur et il devra être réduit à juste la coque qui fera le fond du violon.
Oui, et là, il sera la même hauteur, mais il sera creusé à l'intérieur.
D'accord, donc pour l'instant, il est bombé, mais ensuite, il sera creux.
Oui.
Donc ça, c'est de l'érable, c'est quel bois?
Oui, c'est l'érable.
Et c'est beaucoup plus dur, alors c'est le plus dur du bois dans le corps du violon?
Non, il y a l'ébène est un peu plus dur encore. Voilà, mais,
pour
mais
le manche.
Ouais. Puis bon, les filets, là, justement. Ouais, on emploie des tout petites parties, effectivement. Mais sinon, l'érable. Ouais.
Et c'est nécessaire d'avoir toute cette épaisseur et de la creuser, parce que finalement, les 3 cm d'épaisseur qu'il y a là vont être réduits à quelques millimètres. Et on ne peut pas avoir une planche plus mince au départ.
Alors là, elle est un peu, j'ai exprès laissé assez épais pour qu'ils aient le temps de s'habituer à la gauche.
C'est pédagogique, alors.
Et puis, non, parce qu'après, c'est vrai, quand on s'approche de la voûte finale, c'est fait avec le même outil, et puis il faut être précis, donc c'est bien un peu de sentir déjà un peu avant comment ça se passe. Mais disons, on est obligé d'avoir une épaisseur quand même de 18 mm, d'accord. Parce que ce sera la hauteur de la voûte à la fin.
Qui est bombée.
Ouais, ouais, ouais. Et puis ça, ben... Il y a eu des instruments bon marché qui ont été faits complètement pressés, donc avec une plaque de bois de 3-4 mm. Mais là, on travaille vraiment tout dans le massif, quoi.
En plus, c'est des bois précieux, j'imagine. Tout à l'heure, on a vu qu'une des petites lames d'ébène s'est brisée, mais c'est évidemment un bois de lutherie, je pense, qui a une grande valeur.
Bah, disons que c'est des bois, déjà, par leur stockage, ça fait que, disons qu'il faut en tout cas 5 ans de stockage. Et puis là, c'est des bois qui ont 10-15 ans. Même certains, la table, elle a 20 ans. Donc c'est clair, c'est des bois qu'il faut laisser longtemps de côté. Et puis c'est vrai, des bois qui sont assez rares. Donc le sapin, il faut des beaux sapins sans nœuds qui aillent pousser lentement, avec des veines très serrées.
Voilà, c'est vrai, on voit les arceaux là, très très serrés.
Ça, c'est clair. Mais bon, c'est un sapin qu'on trouve dans la forêt, mais il faut chercher les bois.
Pas n'importe lequel.
Ouais, ouais.
On le fait sonner aussi un peu. Là, si on donne un coup sur la planche, on entend un peu déjà de musique. Je vous laisse essayer, Pierre-Louis.
Ouais, c'est clair, c'est un bois qui est très cristallin, dans le sens qu'il est très dur. Il est très... Ils ont déjà un son très, très net, très clair, comme ça.
Et l'érable aussi est choisi en fonction de ses propriétés de sonorité.
Là, ce qui est plus difficile, c'est de trouver de l'érable ondé. Ce qu'on appelle, c'est l'érable avec ses flammes.
Voilà. Et c'est pour la beauté plus que pour le son.
Oui, bon, il y a aussi des très grandes différences de qualité après. Mais déjà, de trouver un érable ondé, ce n'est pas évident. Et après, il y a des différences entre les bois. Disons, quand on va dans une région pour chercher un bois, on sait déjà à la base que c'est une région qui fait que l'arbre et que la densité du bois n'est pas trop forte. Ça, c'est important. Et puis là, on peut trouver après ces érables ondés. Mais il y en a, dans une forêt, il y en a un sur 100 qui est comme ça. Et puis, on ne sait pas pourquoi, en fait.
Et les fonds de violon sont toujours en érable. L'érable ondé, c'est une obligation pour un fond de violon.
Bon, il y a eu des essais avec du peuplier, du bouleau. Pour les violons, il y a eu pas mal d'instruments qui sont faits en peuplier. Mais c'est un bois qui est un peu plus mou. Donc, automatiquement, on va devoir le faire un peu plus épais, un peu plus lourd. Et... pour les violons, c'est quand même l'érable qui est le mieux approprié. C'est une question de poids par rapport à sa résistance aussi.
Thank you. Dans votre propre atelier de lutherie, Pierre-Louis, c'est à la Neuville, je crois. Hein.
Oui.
Vous avez aussi autant de monde qui s'active ici. C'est une sorte d'atelier à l'ancienne avec tout plein d'apprentis. On peut imaginer qu'il y en avait à l'époque des compagnons et de Stradivarius et autres.
Non, parce que la lutherie, en fait, moi, je travaille tout seul déjà. Et je crois qu'on est quand même tous assez...
Solitaire,
individualiste. Et puis on fait notre travail comme ça. Bon, j'ai eu des stagiaires qui ont travaillé chez moi, momentanément, mais un à la fois.
C'est une question aussi, je pense, de volume de travail. Vous n'avez pas des commandes qui permettraient d'avoir plusieurs à travailler à plein temps.
Je dois dire, quand moi je fais un instrument, pour être concentré sur le on est vite. Moi j'ai besoin de cette concentration aussi, puis d'être au calme, seul, pour vraiment pouvoir travailler comme il faut.
Alors donc, ça vous change alors ici à Grignon?
Ça me change, oui, mais bon là, en fait je montre plus que je travaille, donc c'est différent comme...
Vous avez déjà enseigné aussi la lutherie?
Non, alors j'ai eu une dizaine de stagiaires, disons, mais qui ont fait vraiment... Ils n'ont jamais fait d'apprentissage chez moi, c'était plus des gens comme ici qui voulaient voir un peu ce qu'était le métier, quoi.
C'est un métier qui connaît un regain d'intérêt, ou bien la lutherie, il me semble que ça peut intéresser justement des gens qui s'intéressent à la fois à la matière du bois, qui est tellement noble aussi dans ce cas de ces bois de lutherie, et aussi le côté musical, le côté artistique.
Oui, c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de jeunes qui se penchent sur ce métier. Et il y a beaucoup de luthiers aussi en Suisse romande.
Trop ?
Je pense qu'il n'y aura à un moment donné pas assez de travail pour tout le monde, effectivement. Il y a 40 ans, il y avait 4-5 luthiers en Suisse romande. Maintenant, on est passé 50. Bon, il y a aussi beaucoup de développement, d'écoles de musique qui sont ouvertes. Il y a un peu plus de travail, c'est clair, mais à un moment donné, surtout pour la construction de violons, où quand on a construit un violon pour un violoniste, on va pas y en construire un autre, en principe. Il l'aura pour sa vie, donc il faut...
Ouais. Et vous êtes beaucoup à faire des violons baroques en Suisse romande, Pierre-Louis?
Les spécialistes du violon baroque, il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en a 4-5 en Suisse romande, ouais.
Des gens qui ne font que ça aussi, il y en a?
Moi, je pense pas qu'ils fassent que ça. Parce qu'il y a quand même toujours, bon, déjà les réparations. Un luthier aujourd'hui, pour vivre, il fait un peu tout, je pense.
Il y a moins de chapelles que dans les musiciens, alors, parce qu'il y a des musiciens qui jouent uniquement... Enfin, il y en a peut-être moins qu'on croit, qui jouent uniquement sur instruments anciens et qui disent qu'on ne peut pas jouer la musique ancienne autrement que sur des instruments d'époque. Il n'y a pas vraiment de chapelle chez les luthiers?
Non, je crois pas. Non, c'est... C'est aussi intéressant d'essayer de toucher à tout, quoi, ça c'est sûr.
Et ici, sur cette table de démonstration, Philippe Motério, il y a un collage qui est en train de faire, d'après le nombre de serre-joints que l'on voit. C'est deux parties d'un autre violon.
C'est les deux parties de la table, donc
la table.
Du devant.
Qui sont épaisses alors et qui sont déjà bombées.
Voilà. Pour faire la voûte, il faut effectivement coller au départ deux pièces de bois qui sont assez épaisses au centre. 2,9 cm.
Presque 3 cm sur la surface de collage. Voilà. Et après, ça deviendra quelque chose de très fin, la table.
La voûte va être creusée là-dedans, oui, effectivement. Mmh. Alors, comme elle est creusée extérieure et intérieure, elle a une épaisseur de 3-4 mm.
Et là, vous avez des serre-joints en métal et puis aussi des anciens serre-joints à cheville de bois.
C'est des grandes presses, pas de vis en bois, oui, effectivement. Qui tiennent les deux parties de la table vraiment à plat. Le principe, c'est de chauffer au départ les deux pièces de bois devant une lampe assez chaude pour que la colle soit très liquide et qu'elle pénètre vraiment dans le bois. Après, on frotte les deux pièces l'une contre l'autre pour que la colle se glisse vers l'extérieur et il ne reste plus qu'un film de colle très très fin, en fait. Ça pourrait presque tenir sans serre-joint. Oui.
Et ça va sécher, ça va refroidir donc pendant quelques temps là, avant que vous puissiez travailler.
On va le laisser jusqu'à demain. C'est ça la colle qu'on utilise.
Oui, qui est dans ce bocal, une sorte de soupe là, qui est en train de réchauffer au bain-marie. Une
odeur délicieuse.
C'est étonnant. Ça.
Alors, c'est un mélange d'os, de peau et de nerfs d'animaux qu'on fait chauffer au bain-marie. Et c'est une colle qui est la même qu'on utilisait déjà au Moyen-Âge et qui est redoutable comme puissance d'adhésion. Mais elle sent un peu mauvais, c'est vrai.
Oui. Ça sent pas le poisson, c'est pas de la colle de poisson.
C'est pas de la colle de poisson, mais ça existe, oui, la colle de poisson.
C'était vraiment la table différemment du fond, ouais. Et puis que ça a un peu mal tourné. Là.
Là, vous examinez un violon, c'est un violon ancien, Pierre-Louis?
Oui.
C'est alors... le vôtre, Anne-Catherine Gigi?
Oui. Ouais.
Qu'est-ce que c'est comme violon? Vous le connaissez?
Alors, on m'a dit que c'était un anglais, mais il est anonyme, autrement, c'est pas plus.
Et il est monté à l'ancienne, celui-là? Il a la, oui, le manche très, très plat, c'est à ça qu'on reconnaît un peu, hein, le fait que le manche soit
ouais,
pas très,
bon, là,
très incliné.
Le... Il est plus court, il est, puis là il est très épais, et puis bon, la touche est plus courte aussi, et puis l'angle des cordes effectivement sur l'instrument sont plus plates, ça fait moins de pression sur le chevalet.
Effectivement, la touche, donc l'endroit où on pose ses doigts est beaucoup plus courte, que, elle arrive beaucoup moins près du chevalet que sur un violon habituel. Ça veut dire qu'on jouait moins d'aigus ou qu'on les jouait hors de la touche?
C'est sûr qu'on joue moins dans les positions aiguës avec un violon baroque. Non, on reste plutôt dans les positions basses. Donc on a moins.
Attends, on a
pas
des...
besoin de toute cette...
D'accord. Mais on peut quand même poser les doigts en dehors de la touche, c'est ça, sur les cordes, parce qu'on a des récits où on raconte que Vivaldi arrivait à poser ses doigts jusqu'à un cheveu du chevalet pour faire des notes extrêmement aiguës dans des cadences virtuoses.
C'est clair qu'on peut sortir là.
On joue plus en, ça, voilà, ça, en harmonique. Les...
C'est en tout cas pas ce qu'on utilise de façon la plus...
plus courante.
La plus courante.
Vous avez un archet baroque aussi, Anne-Marie Gigi, pour jouer sur cet instrument. C'est toute une autre technique. Il faut beaucoup de temps pour apprendre, surtout l'archet.
Il faut un certain temps d'adaptation. Hein. Mais aussi pour l'instrument, si on le joue sans mentonnière, sans coussin, c'est une... l'instrument repose autrement. On n'a pas les mêmes points d'appui que sur un instrument moderne. Donc... Ouais, il faut s'y adapter un petit peu, c'est sûr. Mais l'émission du son, elle est différente aussi.
Avec des cordes, vous avez des cordes en boyau, là?
Oui, sur les deux aigus, en fait. Hein. Mmh. Autrement, c'est des cordes boyau, mais filées autour. Enfin, il y a un petit filet métal autour.
Et donc, vous l'utilisez de préférence pour jouer, je sais pas, pour jouer du Bach ou de la musique ancienne?
Alors, absolument. Depuis que j'ai cet instrument-là, j'ai moins envie de jouer la musique ancienne avec l'instrument moderne, ça, c'est sûr. Parce que c'est adapté, quoi. On se rend compte quand même au niveau de l'articulation. Ça se fait. Enfin, c'est l'instrument qu'il faut pour cette musique. T'as vu le petit trou qu'il y a là?
Ouais.
J'ai eu des explications.
C'est une blessure, ça,
très, très différentes.
C'est pas un accident?
Que ça puisse être.
Il y a un trou derrière la tête, donc au début de la volute, sur l'arrière du violon, il y a deux petits trous en forme un peu de papillon, mais c'est.
Non, mais je crois que c'est. C'est le chevillé là qui l'a fait très fin et puis que ça a passé à travers.
Il y a eu un, voilà, ouais.
Mais
Mais il y a aussi une théorie qui disait que ça, certainement ils accrochaient le violon au mur.
Ouais, alors non, il y en a comme un petit trou, mais qui est bien travaillé, mais tout, joli, voilà, joli, ouais, tout, pour mettre au mur. Mais là, ça, c'est.
Ça paraît plutôt être
non, là, c'est un accident. Ouais. Et ce qui est possible, c'est que. Il y en a qui creusent aussi plus profond après coup pour, parce que les chevilles viennent toujours plus grosses, les trous toujours plus grands, donc il faut la place pour les cordes et puis on creuse, puis tout d'un coup, ben, on a qu'à passer à travers. Oui. Et puis on voit que c'est tout fin, je pense, ça c'est sûr. Mais c'est pas. C'est pas cassé là.
Il est très léger d'ailleurs.
Ouais,
c'est
très léger. Ah ouais.
Ça vient du fait que toutes les parties sont très fines en fait.
Ouais, ouais.
En principe, ça résonne mieux si c'est plus fin, Pierre-Louis.
Alors, si le bois est assez résistant, oui. Mais on n'ose pas non plus aller. C'est clair que si on va beaucoup trop dans le trop fin. Là, ce qu'on remarque, c'est que l'instrument, il est léger. Ça doit être fin, mais c'est quand même très solide. Donc, c'était probablement des bois qui étaient très, très,
très, bien
très résistants à la base. Mmh. Ouais.
Une atmosphère très précieuse, on s'en rend compte, dans ce festival, cet atelier de musique ancienne, avec d'un côté des gens qui fabriquent un violon, et puis de l'autre des violons à écouter, à entendre en concert, David Mestre.
Dans l'église Saint-Éoldule de Gruyère, dont on entend les cloches,
oui.
Une église qui est donc dans ce village qui est très sonore, puisqu'il n'y a pas de voiture, vous savez peut-être, dans le village médiéval, et la sonorité, on la retrouve aussi quelques jours après les entretiens que j'ai eus tout à l'heure avec les participants à ce stage de lutherie,
oui.
Pour voir l'avancement de ce violon qui est construit sur place en marge de cet atelier de musique ancienne.
Donc une nouvelle immersion dans ce monde baroque et ce monde du violon baroque.
Ah, ça c'est le manche qui est déjà un peu travaillé. Il a déjà la forme de la volute. On voit dans ce gros morceau de bois qui était parallélépipédique hier. Vous avez scié ça comment? Vous avez raboté ou...
Non, on a fait glacier électrique.
Mm-hmm.
Puis bon, ça n'a pas.
Après le dessin, pas par la bonne forme.
L'acier, elle est pas tendre droite.
Puis, ah ouais.
Ça a coupé un peu.
C'est un peu plus mince que prévu. C'est récupérable, ça.
C'est encore juste. Ça va juste aller. Il reste. Disons qu'il y a un endroit où on n'ose plus rien enlever, c'est ça.
Voilà. Ouais.
Puis maintenant, ils font lui autour.
Ouais.
Non, mais ça va aller.
La largeur du manche, c'est très important. Si c'est trop mince, on n'arrive plus. Oui, il y a les quatre cordes qui doivent être posées dessus.
Ouais, ouais.
Bon, là, c'est à l'endroit de la tête. Hein, donc c'est
ouais, c'est le chevillé. Là, c'est moins important. Mais c'est vrai que le manche, là, il nous faut la largeur.
Et les petites chevilles qui permettent d'attacher les cordes, vous allez aussi les faire au cours de la semaine?
Alors, si on a le temps, on les fera. Mais j'en ai pris des qu'on peut acheter pratiquement fini. On doit refaire le cône parce que c'est clair qu'on doit l'adapter. Mais le reste, non, ça se fait.
Même des chevilles, baroques, c'est différent des chevilles de chevilles modernes.
Ça se trouve sur le marché aussi, des belles chevilles qui ont été faites à l'ancienne. Ouais.
Il y a souvent un petit bouton dessus, c'est
ça ? Oui, un petit bouton noir. Ou bien alors, il y a toutes sortes. Ça se trouve avec des... Avec des boutons aussi en or.
Ça a une fonction ou il y a un symbole spécial ?
Non, c'est purement décoratif après.
Parce que le bois qui est utilisé pour les chevilles, ça doit être un bois, je pense, très résistant. C'est différent du reste de l'instrument ?
Ce qui est bien, c'est d'avoir un bois qui est stable un peu par rapport à l'humidité. Parce que sinon, ça... Alors justement, dans les anciens, ils faisaient beaucoup en buis. Alors le buis, c'est un peu... C'est vrai que c'est beau, mais c'est un peu le problème de la stabilité de
l'hygrométrie.
Ouais. Ça change beaucoup.
Et on utilise plutôt des bois tropicaux.
L'ébène, c'est quand même le bois le plus adapté pour ça, quoi. Ouais, c'est le plus stable.
C'est ce que vous allez utiliser pour le violon que vous faites ici ?
Ah non. Non, on va le faire en buis. Non, mais si c'est bien fait au départ. Ça.
Avec du buis, je pense qu'il a longtemps séché, qui est très, très dense.
Moi, j'ai pris du buis, donc j'ai le...
Vous pouvez nous montrer, Pierre-Louis. Il est dans une des caisses, là, en réserve.
Ça, c'est du buis.
Oui, un gros morceau d'un tronc de buis. C'est le bois aussi avec lequel on fait les flûtes, hein, le flûte à bec.
Ouais. Certaines flûtes sont faites en buis aussi. Ça, c'est du buis qui vient de l'île Saint-Pierre, qu'ils ont coupé quand ils ont refait l'hôtel à l'île Saint-Pierre.
Tout près de votre atelier, alors, à la Mordine.
En face de chez moi, oui.
Alors, la qualité de ce bois, c'est le fait qu'il soit serré.
Le buis, c'est un bois qui d'ailleurs, c'est un arbuste, normalement, qui n'est pas très, très grand. Et ceux-là, ils avaient 3 mètres de haut. Et puis, c'est vrai que c'est du bois qui a poussé très lentement, donc qui est très dense, et puis avec des veines très serrées. Ouais.
Et puis pour tailler des petites chevilles là-dedans, il faudra le débiter en morceaux ou d'abord ?
Donc c'est clair qu'on va scier d'abord des petits carrelets, puis après ça se fait autour.
Vous avez un tour ici à l'atelier de Gruyère ?
Il a pris son tour avec, son motet.
Qui va servir pour d'autres pièces du violon ?
Non, en principe ce sera pour les chevilles ici à les faire avec.
Thank you.
Le final du premier concerto de Joseph Haydn, là au violoncelle par Jean-Guillain Keras et l'orchestre baroque de Freiburg est lui dirigé par Petra Mulejans, dirigé depuis un instrument, depuis un violon.
Voilà,
David Mestri.
La leader de cet ensemble Freiburg Baroque Orchestra, Petra Mulejans. Elle a un archet dont on parlera un peu demain, puisque la deuxième émission de cette série autour du violon baroque sera consacrée spécialement aux archets, qui ont une part évidemment très importante au jeu du violon baroque, avec Francine Imbert-Drault, qui était une des invitées de la semaine de Gruyère. Elle a donné une conférence le mercredi, et elle nous parlera de ses archets, dont celui de Petra Mulejans, qu'elle a réalisé.
Alors si le club des luthiers de violon baroque est déjà très fermé, celui des archetiers baroques, j'imagine, est plutôt select. On le verra demain avec Francine Imbert-Drault. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, David Mestri?
Je vous propose un autre ensemble qui a aussi participé à cette semaine de musique ancienne gruérienne. C'est l'Assemblée des Honnêtes Curieux qui a donné le concert final au début de ce mois de septembre à l'église de Gruyère. Ici, c'est sur un de leurs disques consacré à Handel, une sonate en ré mineur pour violon, Amandine Meyer, avec le continu de l'Assemblée des Honnêtes Curieux.
Thank you.
Ainsi s'achève cette émission de Musique en mémoire. Sachons nous souvenir que l'assistance de réalisation, nous la devons à Isabelle Watson. Et cette semaine, c'est Dominique Stalder qui signala la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider. David Mechtry, nous vous retrouverons demain, toujours dans le cadre de ce quatrième atelier de musique ancienne, tel qu'il a eu lieu récemment à Gruyère. Demain, nous retrouverons donc Francine Lambert-Drouard-Chetière.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24. Notre adresse internet, espace2.ch.
L'affaire vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit des minuits en nouvelle diffusion sur Espace 2. Mais nous, c'est bien demain à 9h que nous allons à nouveau, avec vous, David Mechtry, pousser la porte d'un atelier du violon baroque. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye. Espace.